Mondial Sport, Hugo Moissonnier.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Mondial Sport, l'émission de tous les exploits aux quatre coins du globe sur RFI. Même si ce dimanche, je l'avoue, je ne me suis pas aventuré très loin de chez moi. Je vais vous raconter un peu ma vie. Hier soir, sur le trajet du retour, je me suis retrouvé nez à nez avec un certain nombre de supporters français dans le métro, des fans arborant des maillots bleus, des écharpes bleu, blanc, rouge, voire des maquillages tricolores sur leurs joues. Il faut dire que j'ai la bonne ou la mauvaise idée d'habiter pas très loin du Stade de France, et c'est vers cette enceinte que convergeaient mes compagnons de rame, des fans de Ramos, de Tamac, Ficou, Biel, Biarré, Lucu, Moefana, Aldrit, ces fans, en fait, ils allaient voir tout simplement du rugby France-Écosse, la dernière journée du tournoi des 6 nations. 35-16 à l'arrivée pour les Bleus et une victoire finale dans cette compétition toujours très attendue. Compétition emblématique de l'Ovalie européenne. Une victoire, mais pas de grand chelem, une victoire avec une perte immense en chemin, celle d'un certain Antoine Dupont, le meilleur joueur du monde. Alors, on ne va pas se mentir, vous qui nous écoutez aux quatre coins de l'Afrique, vous n'avez pas forcément vibré aussi fort hier soir que mes compagnons de voyage, vous n'avez pas forcément suivi de très près le tournoi des 6 nations. Le rugby a des règles parfois difficiles à comprendre. En France comme dans le monde, l'engouement est limité à certains territoires. Heureusement, Mondial Sport est là pour vous ce dimanche, toujours au-dessus de la mêlée.
Actuel destin radieux.
Allez,
coup, en salon,
allez,
avec le soutien de
Mbappé. Joueur sous la
ouais, le premier essai bleu pour le petit prince de Futuna.
Steve Russell, l'accélération, la croisée manquée et le ballon récupéré.
Allez,
l'accélération
allez,
de Romain Tamac.
Qui peut transmettre
allez,
la boulevard.
Il va y aller en avance, ouais.
L'essai de la libération peut-être pour l'équipe de France à la 54e minute. Et l'équipe de France succède à l'Irlande, remporte l'édition 2025.
Mesdames, messieurs, vainqueur du tournoi, l'équipe de France.
Le succès du 15 de France face à l'Écosse à l'occasion de la 5e et dernière journée du tournoi des 6 nations. Et cette image, Antoine Dupont qui soulève le trophée, non pas en short mais en pantalon, capitaine blessé, mais pas abandonné, forfait pour de longs mois. Il s'est malheureusement fait les croisés, comme on dit, lors du match précédent en Irlande. Antoine Dupont, capitaine, tout de même au moment de célébrer. Alors, c'est la 27e victoire de l'équipe de France dans le tournoi, on va dire, seul et avec d'autres. 27e victoire en tout. Bonjour, Bakary Maïté.
Salut, Hugo.
Dirigeant, entraîneur, également figure du rugby africain, ancien joueur ivoirien, manager actuellement des équipes nationales de Côte d'Ivoire. Vous êtes également le coach des féminines du Stade français. Vous êtes président d'un club également en Côte d'Ivoire. Et vous étiez au Stade de France hier.
Ouais.
Donc vous l'avez vécu de très près, cet événement et cette victoire.
Oui. On a un peu serré les fesses en première mi-temps. Et après, on s'est détendu sur la seconde mi-temps. Et surtout, moi, ce qui m'a frappé hier, c'est que le stade ne s'est vidé qu'après la remise du trophée et après le tour d'honneur des joueurs. On attendait vraiment ça. On sentait qu'il y avait une impatience de ce côté-là. Donc, c'était sympa.
Une belle soirée, j'imagine. En ligne avec nous également, Grégory Letor, journaliste et auteur d'un livre, Antoine Dupont, hors normes aux éditions Marabout, paru en septembre dernier. Bonjour, Grégory.
Bonjour, ravi d'être avec vous.
Et ravi de vous recevoir. On attend également, je vous dévoile tout, Serge Plamedi Matondo, c'est une figure du rugby congolais, un entraîneur également, dirigeant, qu'on a déjà reçu dans Mondial Sport. On attend avec impatience son retour, mais alors, il est bloqué non pas par une mêlée adverse, mais plutôt par des embouteillages. Ça arrive même au meilleur. Avant de transformer l'essai avec lui, Grégory, vous étiez loin du Stade de France. Vous êtes plutôt un homme du sud, d'une terre de rugby. Vous êtes à Pau, c'est ça?
J'étais à Pau devant ma télévision parce qu'évidemment on pouvait pas rater cette finale pour le
tournoi. Ça vous a plu quand même?
Oui. Une première mi-temps un peu laborieuse d'une équipe de France peut-être soumise à une forme de pression. En face, une très très belle équipe écossaise qui aurait même pu virer en tête à la mi-temps s'il n'y avait pas eu un orteil mis en touche par Blair Kinghorn, l'arrière du habituel du Stade Toulousain. Mais bon, là, en deuxième mi-temps, ça a été une démonstration de force. On a vu les individualités françaises à leur meilleur, même en l'absence d'Antoine Dupont. Et puis on a vu des records un petit peu pour l'histoire de Thomas Ramos, qui est désormais le meilleur réalisateur de l'histoire du 15 de France, de Louis Bielbiaret, qui a inscrit son 8e essai dans le tournoi, qui est égal à un record vieux de 100 ans.
On va en parler effectivement de ces records. Il y a quelque chose un peu de la cerise sur le gâteau pour le 15 de France. Antoine Dupont, vous avez écrit sur lui. Je ne sais pas si c'est quelqu'un que vous connaissez bien, mais le voir soulever le trophée, même blessé, en tant que quelque part seul et unique capitaine, ça vous a fait quelque chose ?
Oui, parce que c'était une évidence. C'est le meilleur joueur du monde. C'est le guide de cette équipe de France, comme il a été celui de France 7 pour aller chercher l'or olympique. C'est l'icône du rugby français, le porte-drapeau, tout ce que vous voulez. Et Greg Aldrit, qui avait pris son relais en tant que capitaine, qui est un de ses amis d'enfance, avait parlé de rêve, voilà, qu'il voulait garder un petit peu secret, mais on devinait très bien que c'était de soulever le trophée avec Antoine Dupont.
Je vais vous mettre un peu face à l'histoire, Grégory et Bakary. Ça fait combien d'éditions en tout du tournoi des destinations qu'on situe pour nos auditeurs qui ne sont pas forcément des grands connaisseurs du rugby? Vous avez une idée, Bakary?
C'est plus de 100 ans déjà.
La 131e édition, seulement la 26e à 6 équipes. L'histoire du tournoi destination, 2000, ouais. Elle n'est pas hyper linéaire parce que la France n'y participe que depuis 2010. Avant, c'était uniquement pour les îles britanniques. 1910, j'ai dit quoi?
Oui, 2010.
Non, 2010, c'était un grand chelem. La France y était déjà depuis quelques temps. Auparavant, c'était seulement pour l'Angleterre, l'Écosse, Pays de Galles et l'Irlande, donc les îles britanniques. Et ça le redevient dans les années 30, puisque la France s'en va dans les années 30. Elle retrouve le tournoi en 1947 et on passe donc à 6 nations en 2000 avec l'Italie. 27 victoires en comptant les victoires en même temps que d'autres équipes, les victoires partagées. Combien pour la France toute seule, Grégory Le Thor, vous avez une idée?
Là, vous me posez une colle, je vous avoue.
19 victoires toute seule, si j'en crois Wikipédia, donc la 19e. Combien de grands chelems, Grégory? Ça, vous savez.
Ça va être c'était le 9e la dernière fois.
Alors là, c'est le 10e. C'était le 10e en.
C'était le 10e la dernière fois.
En 2022. Voilà, en 2022. Qui était aussi la dernière victoire dans le tournoi. Le fait de ne pas faire un grand chelem, question bête, Bakary, c'est un bémol, un gros non. Bémol ou c'est un petit détail?
Non, c'est. Je crois qu'il n'y en a pas eu beaucoup. Je crois qu'il y en a eu 7, si je ne dis pas de bêtises, de grands chelems dans l'histoire. Donc, pour une compétition à laquelle on participe depuis 1910, ça vous classe la difficulté.
Il y en a eu 10, pardon, 10 pour autant pour moi.
Et donc, effectivement, 10 en plus de oui. 100. En plus de 100 ans, donc c'est assez compliqué à réaliser. On a beaucoup parlé de cette équipe qui regorge de talent avec des joueurs qui sont les meilleurs du monde à leur poste. Et c'était important pour eux de gagner. Et aujourd'hui, avec un peu de recul, on se rend compte que cette défaite contre l'Angleterre ne nous permet pas de faire le grand chelem. Mais bon, personne ne peut nous assurer que si on avait battu l'Angleterre, on se serait présenté dans les mêmes dispositions face à l'Irlande et face à l'Écosse. Donc, le plus important, je pense que c'était de la victoire finale.
Vous êtes d'accord, Grégory Le Thor, Ouais.
Moi, je suis peut-être un petit peu frustré. Ouais. C'est vrai que si on regarde sur l'histoire du tournoi, il n'y a pas eu, il n'y a eu que 10 grands chelems. Le premier, c'était en 1968. Mais le potentiel de cette équipe est tellement immense et le match contre l'Angleterre avait été tellement dominé. Ça avait péché beaucoup ce soir-là par manque de réalisme. En zone de marque, avec des ballons tombés qui relevaient de l'exceptionnel. Donc, forcément, mais bon, comme le dit Bakary, effectivement, une équipe qui serait allée s'imposer à Twickenham n'aurait peut-être pas été aussi surmotivé pour aller renverser l'Irlande chez elle. Donc on ne saura jamais, mais bon, ça reste un titre. C'est le deuxième seulement du mandat Galtier. Donc évidemment, on va pas mégoter dessus et on peut l'apprécier à sa juste valeur.
Le deuxième après 2022, Fabien Galtier qui est à la tête de l'équipe de France depuis 2019. Vous en parliez, Grégory Le Thor, des Bleus records. collectivement. D'abord, 30 essais inscrits au total lors des 5 matchs du tournoi Destination. Cette année, un record, des records individuels également. Vous les citiez, Thomas Ramos, l'ouvreur toulousain, qui est désormais le meilleur marqueur de l'histoire de l'équipe de France. 450 points au compteur, il dépasse Michalak.
Si j'avais eu à choisir, pour moi, c'était gagner un titre avant d'avoir un record personnel. Après, forcément, c'est beaucoup de fierté. C'est la cerise sur le gâteau. Beaucoup de fierté de pouvoir dépasser un joueur que j'admirais étant plus jeune. Comme je le dis aussi, pour le moment, je suis dans ma carrière. J'ai pas trop envie de me poser de questions, même si ça représente énormément de choses. Mais quand je vois les grands noms du rugby mondial et le nombre de points qu'ils ont en sélection, je me dis qu'il me reste du chemin à faire pour être un grand de ce sport. Donc voilà, continuer, il faut que je continue. Et je pense que c'est l'ambition de tous les joueurs aussi dans ce groupe.
Thomas Ramos au micro de notre envoyé spécial, Babacar Diarra. Record d'essai égalé en bleu pour Damien Penaud dans ce tournoi. Je parle sous votre contrôle, messieurs. Record d'essai égalé sur une édition du tournoi pour le jeune, vous en parlez, Grégory Le Thor, le jeune Louis Biel-Biarré. 8 essais en tout sur le tournoi. Il a égalé un record vieux de 100 ans. Est-ce que c'est important, les records individuels en rugby? Est-ce que c'est cette course statistique, elle est la même en rugby qu'en basket, pour prendre un exemple extrême? Qui veut répondre, Bakary, peut-être?
C'est important, je pense, pour marquer une période, pour marquer une époque. Souvent, quand on se réfère à l'histoire d'un sport, on va chercher ses détenteurs de records. Et puis ça aussi classe l'époque dans laquelle on vit avec notamment Thomas Ramos et Lou Biel-Biarré. Voilà, il y a aussi un petit bémol à mettre, parce qu'aujourd'hui l'équipe de France joue beaucoup plus de matchs qu'à une certaine époque. Donc il y a aussi Damien Penaud qui a égalé ou battu le record de Serge Blanco.
Qui a égalé, mais c'était face à l'Irlande. Donc voilà, c'était face à l'Irlande. Dans ce tournoi. Donc il a égalé effectivement le record d'essai en bleu.
Donc ça nous apporte un éclairage assez intéressant sur la qualité des joueurs et de cet effectif dont dispose Fabien Galthié. Mais c'est pas non plus la chose primordiale.
Oui, parce que Grégory Le Thor, on a souvent l'impression qu'en rugby, on veut tellement mettre le collectif au-dessus de tout que les records individuels ne sont pas forcément ce qu'il faut regarder en premier. Et en même temps, comme le dit Bakary, ça veut aussi dire probablement que l'équipe de France possède une génération rare.
Oui, mais je crois qu'il a vraiment, parfaitement résumé les choses. Moi, j'aime bien l'histoire de Thomas Ramos, qui était un joueur, de second plan au début du mandat de Fabien Galthié, qui est un joueur qui avait été renvoyé en France lors de la Coupe du Monde au Japon, alors qu'il avait une simple entorse et qu'il aurait pu très vite rejouer derrière. C'est un joueur qui était formé au Stade Toulousain, qui allait se chauffer les épaules en Pro D2 du côté de Colomiers, qui a résisté à une très très grande concurrence. Ça faut pas l'oublier, au moment où Stade Toulousain a fait venir Capozzo, international italien, a fait venir Melvin Jaminet, qui était à ce moment-là le numéro 15 du 15 de France. Et dans ces moments-là, Thomas Ramos a montré qu'il était peut-être le compétiteur ultime, qu'il aille chercher ce record-là. Alors même si c'est un petit record à l'échelle internationale, Dan Carter avec les All Blacks est pas loin des 1600 points, donc c'est un quart du chemin finalement. Et donc c'est pour ça que son discours, tout en humilité, je le trouve moi très rassurant, très convaincant, et je suis persuadé que c'est un joueur qui va aller encore plus loin. Et puis puisqu'on parle de record, il y en a un autre à pas oublier quand même, celui de Gaël Ficou, qui a égalé le record de Philippe Sella. Philippe Sella, légende du rugby français,
pour la France,
nombre de matchs dans le tournoi.
D'accord.
Alors effectivement, Bakary a raison, il y a plus de matchs aujourd'hui. C'était le tournoi des 5 nations, maintenant c'est celui des 6, donc il y a plus d'éditions. Mais bon, dans un rugby professionnel d'une intensité folle, il y a aussi plus de risques peut-être de se blesser. Donc pareil, c'est une performance qui le situe un petit peu dans l'histoire, et de rejoindre ce monstre sacré, je pense que c'est vraiment magnifique pour Gaël Ficou.
The Strangers Move In dans Mondial Sport sur RFI. On continue à parler rugby au lendemain de la victoire de la France dans le tournoi Destination. Reste avec nous. Pop up in the morning, time to get up out and get it. Baby snooze once anymore and I regret it.
Handle all my business, get my coffee and my breakfast, and my bag already packed, so now I'm headed for the exit. Meet up with the fam, throw the luggage in the back. Make sure it ain't too heavy, I carry a light pack. Make sure it ain't no witness, all the jokes snap alive with a vibe that can cover the world map. Music and drinks and the strangest little snacks. It's always a challenge to stay on the right path when your loaded freight train is traveling this fast. It can destroy anything it hits with a crash and a smash and a boom bash. Get out the way on the stage and the sound clash. We take the day or the night. By the time we get where we want to stay, we've cleared up any attempts to obfuscate. Don't get it confused, I'm not singing the blues. Just stay on your ones and twos, it's time to move.
De la mode sous des nuages, qu'importe le pays, le continent, le paysage. Prince de la ville, on ne négocie que les virages. Pour nous, cet espace infini n'est qu'un petit village. Faut que ça bouge, les congés, rien à foutre. Prendre compte, pas les jours, on fait en sorte que les jours comptent. À la force de nos erreurs de parcours, de rencontres, en détour, entre despotes et laissés pour compte. Ouais, on est des drôles d'oiseaux, migrateurs, peuple aux mille ratures, multi-prestidigitateurs. Des rimes dans le sac à dos, cascadeurs. Quand nos basses saturent, ça tabasse dur jusqu'à pas d'heure. Un son patate, incomparable, restons pas là. Vienne Bronx, Paname, viens qu'on se balade, ouais. On est tout un paquet d'un inventeur en quête d'aventure, so let's get ready to get out. Le vent se lève, il faut tenter de vivre à l'heure où tous figent, obligent et qu'on se bouge.
Rangers Moving dans Mondial Sport sur RFI. On parle rugby, l'équipe de France qui a remporté le tournoi des 6 nations hier suite à son succès lors de la dernière journée face à l'Écosse. Bakary Maïté, Grégory Letor également à distance avec nous, Serge Plamedi, la star du Congo, de la RDC en matière d'Ovalie, va arriver d'une minute à l'autre. Bakary, on a parlé de certains joueurs qui brillent, on va parler d'un autre joueur qui ne peut plus briller pour l'instant parce qu'il est un peu blessé. En attendant, le chef d'orchestre de cette équipe de France, Fabien Galthié, il est en poste depuis 2019. Est-ce que, avec ce deuxième tournoi remporté pour lui, il confirme qu'il est le bon sélectionneur pour le 15 de France ?
Oui, je pense que le rugby, à la différence d'autres sports, on laisse la possibilité au sélectionneur national de travailler dans une certaine sérénité. Tout est mis en œuvre pour que le sélectionneur ait à disposition des joueurs à Marcoussis, dans un écrin qui est absolument fabuleux pour le rugby. Aujourd'hui, il est à mi-chemin jusqu'à la prochaine Coupe du Monde de 2027 qui aura lieu en Australie. Donc c'était important, effectivement, de ramener ce titre-là. Parce qu'on a aussi l'habitude de dire que le tournoi qui précède la Coupe du Monde, bah, il est un peu bancal. Celui qui vient juste après aussi. Il vient trop tôt. Donc là, on est à mi-chemin. C'était important de gagner là. On envoie un signal fort aux nations du Sud aussi. 2026 viendra aussi avec des tournées. Et ensuite, on sera dans la ligne droite pour 2027. Donc pour l'instant, effectivement, c'est l'homme de la situation.
Grégory Letor, il a gagné en 2022. Il gagne en 2025, le tournoi des 6 nations. Il y a eu la Coupe du Monde à la maison en 2023. Au milieu, si je puis dire, c'était trop tôt pour cette génération talentueuse, la génération Dupont, on va l'appeler comme ça. Et Fabien Galthié, c'est arrivé trop tôt, cette fête à la maison ?
Non, je sais pas. Je pense que ça s'est joué à pas grand chose, voilà, sur un quart de finale qui aurait pu basculer de l'autre côté. Il y a forcément une forme de frustration parce qu'il y a un talent hors norme et une génération en or. Après, je pense que Fabien Galthié, il est aussi arrivé à un moment où le rugby français a su se remettre en question après plusieurs années d'échecs avec des réformes structurelles, notamment le système des GIF, des joueurs issus de la formation française, pour amener les clubs à fournir un nombre de joueurs sélectionnables bien plus élevé qu'il y avait au début des années 2000-2010. Donc il a profité aussi de ça, mais il a clairement fait passer l'équipe de France dans une autre dimension. Il y a cette victoire en Australie il y a 2-3 ans, là où l'équipe de France n'avait plus gagné depuis 1990. Il y a des victoires de prestige contre les All Blacks, il y a une démonstration à Twickenham, il y a un jeu offensif, ben voilà, comme on l'a vu en symbole sur ce tournoi, avec le record chippé aux Anglais, donc ce qui rajoute toujours un petit peu de plaisir, de nombre d'essais inscrits sur une seule et même édition. Puis il y a quand même beaucoup de plaisir donné aux spectateurs. Donc voilà, je pense que c'est une forme de synergie qui est à l'œuvre. On n'oublie pas non plus le travail de ses adjoints, William Servat pour les avants, qui était un des meilleurs tonneurs du monde, qui a gagné avec le Stade Toulousain, puis là qui rend le pack français, qui amène à le pack français à avoir une puissance comme on l'a rarement vu. Donc c'est un vrai travail de fond qui a amené maintenant. Et effectivement, on attend cette équipe de France en Australie pour la prochaine Coupe du Monde en 2027. Ça sera quand même, à mon sens, un marqueur de son bilan.
Fabien Galthié, donc pour l'instant, les encouragements du conseil de classe, un conseil de classe qui s'étoffe. On a eu une percée vraiment dans le studio de Mondial Sport et un essai littéralement marqué avec un ballon aplati sur la table. Serge Plamedi Matondo, bonjour.
Bonjour, bonjour Hugo.
Vous étiez attendu, désiré par toute la RDC. Ça y est, vous voilà dans le studio de Mondial Sport. Alors comment je peux vous présenter ? Vous êtes une figure donc du rugby congolais. Vous êtes entraîneur, dirigeant. Le rugby à 7, vous surtout, vous avez les Léopards 7, les Léopards 7 du côté de. C'est en région parisienne, c'est ça, une équipe de rugby à 7 congolaise. Et bien sûr, vous avez suivi, j'imagine, la victoire de l'équipe de France hier contre l'Écosse et donc à l'arrivée dans le tournoi des Destinations. Vous avez passé une bonne soirée devant votre télé ou vous étiez au stade ?
Oui, devant la télé, il n'y a personne à la maison, personne au salon d'ailleurs. Il faut que tout le monde soit à la chambre à ce moment-là. Et surtout...
vous êtes tout seul, en intensité maximale devant
la télévision. J'ai tremblé quand, vers la fin de la première mi-temps, j'ai tremblé, je disais, qu'est-ce qui va se passer alors ? Parce qu'on était tous espérés qu'on va remporter, mais c'était pas facile. Mais c'était vraiment un match sous tension, s'il faut le dire.
Vous l'aimez, cette équipe de France ? Elle a des joueurs de talent et un sélectionneur de talent ? C'est un peu ce qu'on se demandait.
Je crois que chaque jour, on découvre que cette équipe a des potentiels. Chaque jour, même quand il y a des doutes avec l'Angleterre, on se disait, tout le monde a commencé un peu à jeter un peu la pierre sur l'entraîneur. Mais là, ils nous ont mis dans la confiance. C'est pour cela, même hier, lui-même, après les matchs, quand on lui a posé la question, qu'est-ce que tu vois à ces matchs ? Il dit, non, on a gagné, c'est tout, on a gagné. Parce que même, je crois que même lui-même était aussi sous tension. Je crois que même son humeur, après avoir d'aller au vestiaire, je crois qu'il n'était pas bien. Tout le monde n'était pas bien. Moi y compris, j'ai tremblé.
Elle est, que ce soit à Abidjan ou à Kinshasa, à votre avis, on a suivi le match hier. Oui. On suit l'équipe de France de rugby, on s'intéresse au rugby. Ouais.
Oui,
Dakary, vous êtes d'accord avec ça ?
Ouais, on suit le tournoi, on suit le championnat de top 14 en Côte d'Ivoire, du côté d'Abidjan et partout dans le pays. C'est un vrai pays amoureux de rugby et forcément la France fait partie des équipes favorites des Ivoiriens.
Et en RDC, c'est un peu la même chose, Serge Plamedi ?
Effectivement. Hier, déjà, s'il faut le dire, il y a les gens qui n'avaient pas Canal+, France 2 pour suivre les matchs. Il y a des gens qui avaient des problèmes, qui étaient en route, mais on suivait les matchs dans les groupes WhatsApp que nous avons. Et chaque fois, il y avait l'essai. Quand on a lancé une affiche sur la page Facebook des France Rugby, ils prenaient directement, ils balançaient. Donc, ils suivaient. Il y a ceux qui étaient au volant, qui suivaient les matchs au volant, mais en tout cas, la ferveur était partout comme ça, parce qu'ils sont derrière l'équipe de France, si vous voulez dire.
Bon, bah écoutez, ça donnera peut-être du baume au cœur et des idées à la génération Galthié-Dupont pour aller loin. Ils ne sont pas soutenus que par les terres de rugby en France. On continue à parler Ovalie dans Mondial Sport ce dimanche, mais avant un point sur l'actualité sportive la plus actuelle.
Mondial Sport.
Avec Christophe Diremzian. Bonjour Christophe.
Bonjour Hugo, bonjour à tous.
On parlera tout à l'heure du classique PSG-Marseille qui va enflammer la fin de la 26e journée de Ligue 1. En attendant, 4 matchs au programme et Lyon L'un vient de s'achever par contre, et c'est Lyon qui affrontait le Havre.
Oui, l'OL qui, après avoir écarté sans ménagement, on peut le dire, le Steaua Bucarest de la Ligue Europa cette semaine, eh bien, a enchaîné victorieusement, mais dans la douleur, il faut bien le dire, face aux Normands, victoire 4-2, Lacazette sur pénalty, Fofana, Miko Tadze et Thiago Almada contre un autre pénalty d'Abdoulaye Touré et un but de Josué Casimir. Les Lyonnais brûlent du coup la politesse à Lille pour la cinquième place. Les trois autres rencontres on démarrait depuis une vingtaine de minutes. Strasbourg-Toulouse, Montpellier-Saint-Etienne et Brest-Reims. C'est pour l'instant deux buts marqués. Un par Saint-Etienne à Montpellier et un autre par Toulouse à Strasbourg au stade de la Méno.
Des belles affiches ailleurs en Europe et notamment en Angleterre, Christophe.
Oui, deux compétitions simultanément ce week-end. D'abord, évidemment, la 27e journée de Premier League où Arsenal a repris le goût à la victoire en remportant le derby de Londres avec Chelsea. 1-0 et consolide sa deuxième place derrière Liverpool. Liverpool qui vient de démarrer il y a 5 minutes sa finale de la Coupe de la Ligue contre Newcastle. Les Reds qui vont tâcher de se consoler de leur élimination de la Ligue des Champions en décrochant un premier titre cette saison, sachant que le sacre en championnat, a priori, est plutôt bien parti. En Liga espagnole, le choc de la 28e journée, c'est ce soir. Atlético de Madrid, Barça, 20h, temps universel. Les Catalans, deuxième entre le Real Madrid, vainqueur hier à Villarreal 2-1, grâce à un doublé de Kylian Mbappé, et les Colchoneros, eux aussi boutés hors de la Ligue des Champions par le Real, n'ont pas le droit à l'erreur. Enfin, le choc au sommet de la Serie A, 19h45, temps universel, entre l'Atalanta Bergame, 3e, et l'Inter Milan. L'Inter leader chatouillé par Naples, revenu péniblement à sa hauteur tout à l'heure après un triste 0-0 obtenu chez le relégable Florence.
La saison de Formule 1, la nouvelle a débuté. Christophe, on en parlait hier de F1 dans Mondial Sport. C'était cette nuit en Australie, premier Grand Prix en 2025, victoire du Britannique Lando Norris à Melbourne.
Le pilote McLaren Mercedes qui a remporté donc ce premier Grand Prix d'Australie, bien perturbé par la pluie, devant le quadruple tenant du titre, le néerlandais Max Verstappen et un autre Britannique, George Russell. Pour sa toute première course avec sa nouvelle écurie Ferrari, Lewis Hamilton, autre Britannique légendaire s'il en est, cette fois sacré, a terminé à la 12e place. Côté français, Pierre Gasly a fini 11e et Esteban Ocon 13e. Il aurait pu y avoir un troisième français classé, le petit nouveau de la F1, Isaac Hadjar. Il a tout juste 20 ans, il est pilote chez Racing Bulls, l'écurie sœur de Red Bull. Malheureusement, il a dû abandonner avant même la fin du tour de formation, figurez-vous, parce qu'il a tout simplement perdu le contrôle de sa monoplace sur la piste mouillée. On va dire que c'est le métier qui rentrera. Et puis un petit mot de tennis.
Allez-y, allez, vous avez du tennis. Allez.
Avec deux finales à suivre au tournoi d'Indian Wells tout à l'heure. Chez les hommes, Holger Rune, le Danois, face au Britannique Jack Draper. Et puis chez les dames, la numéro 1 mondiale, la Biélorusse Arina Sabalenka, affronte la jeune prodige russe Mira Andreeva.
Merci Christophe Diremzian. On en parlait en tout début de Point Actu. Jour de classique en France, le PSG qui accueille tout à l'heure au Parc des Princes l'Olympique de Marseille. Match toujours attendu par les supporters des deux équipes, malgré une grande différence de niveau et de moyens depuis une quinzaine d'années. Mais malgré ces contrastes et malgré cette rivalité, Parisiens et Marseillais savent parfois se rassembler. Bonjour Sofiane Amazian.
Bonjour Hugo, bonjour à tous.
Vous allez nous raconter l'histoire de deux hommes, l'un est pour le PSG, l'autre pour l'OM. Mais ils marchent main dans la main. Ils ont décidé de rallier le Parc des Princes, donc le stade du PSG à pied, en partant de Marseille. 800 km de périple pour récolter des dons contre le cancer des enfants. Vous avez croisé ces deux fans à Melun, c'est environ à 50 km de Paris, pour prendre de leurs nouvelles avant leur arrivée tout à l'heure au Parc des Princes.
Marcher contre le cancer de Marseille jusque Paris, Melvin, 26 ans, et Romain, 36 ans, arrivent au bout de leur immense défi. L'un est un fan inconditionnel du Paris Saint-Germain, l'autre de l'OM, mais c'est le coup de foudre amical entre les deux qui mène à la naissance de ce projet.
On s'est rencontrés encore sur un événement et le feeling est passé tout de suite. Après, il a appris que j'étais parisien. Du coup, il m'a invité chez lui dans le sud, à Marseille, où j'ai pu passer des vacances. Et ensuite, il m'a proposé ce projet assez fou qu'il avait depuis pas mal d'années. Et j'ai accepté tout de suite, et c'est pour ça qu'on est parti sur les routes en octobre.
Ouais, c'est exactement ça. Je cherchais en fait un Parisien pour faire un classico du cœur. Je voulais réunir deux supporters, malgré la rivalité des deux clubs, montrer qu'on peut marcher ensemble. C'est plusieurs étapes, 18 au total, voire 19 parce que y en a une qui était un peu plus longue. C'est en moyenne 30-40 km par jour. Mais on est jeunes et on ira jusqu'au bout, jusqu'au Parc des Princes.
Associés à la Ligue contre le cancer, Melvin et Romain ont déjà réalisé une marche similaire en octobre dernier pour récolter pas moins de 3000 euros. Cette fois, la cagnotte devrait être supérieure car des villes s'y sont associées, comme Melun qui a offert 900 euros aux deux aventuriers. Pascal Gomez, conseillère municipale, est touchée par l'initiative des deux supporters.
D'abord, chapeau, merci. Une telle générosité, c'est exceptionnel. Ça serait bien que ça devienne moins exceptionnel, en fait, et que tout le monde ait conscience que ça peut arriver aux autres, mais ça peut nous arriver à nous, et qu'au-delà de ça, il faut garder l'esprit et le cœur ouverts.
En bon supporter de deux équipes rivales, Melvin et Romain n'hésitent pas à se chambrer, rendant la cohabitation parfois difficile durant le voyage. Mais toujours dans le bon esprit, ce qui manque aujourd'hui dans le monde du football.
On y arrive bientôt, et j'espère un grand spectacle et un bon accueil pour Romain.
Ouais, moi, c'est pas que j'ai la pression, mais je suis le seul représentant de l'Olympique de Marseille, ce qui est malheureux. On en parle un peu, les supporters, que ce soit marseillais ou parisiens, interdits de stade. Eh ben, pour un classico, pour moi, c'est pas un classico. On adore le football, mais il faut mettre de côté tout ce qui peut se passer, ces bêtises-là.
Invités par le Paris Saint-Germain pour regarder le match, les deux marcheurs vont pouvoir célébrer leur succès et vibrer pour leur équipe de cœur.
J'espère que l'Olympique de Marseille se réveille. Mais prono 3-0, comme à l'aller, justement.
Non, pas du tout. Moi, je vois un match très, très serré. Tu peux rigoler, hein. Il n'y a aucun souci, tu peux rigoler. Et on verra qui rigolera, parce qu'on s'est dit que celui qui perd, il finit dans la scène. Parce que moi, au Vieux-Port, j'ai fini au Vieux-Port quand l'OM a perdu à l'aller. Et là, le match retour, eh ben, tu vas finir à la scène, mon collègue, parce que l'OM, ils vont monter vraiment pour jouer un très, très beau match.
De la vie.
Avant de s'asseoir confortablement dans les tribunes du parc, Melvin et Romain auront le droit à une visite guidée du stade et de marcher sur la pelouse pour être célébrés, on l'imagine, par les supporters présents ce soir.
Une belle histoire, Sofiane Amazian. Pas sûr que tout soit aussi beau en termes d'esprit dans les travées du Parc des Princes, néanmoins.
Ouais, ça s'annonce compliqué. En tout cas, c'est ce que nous dit la Ligue de football professionnel. La LFP, c'est un match sur liste rouge. Hein. Vous savez, les classiques PSG-OM ou MPSG, que ça se passe au Parc des Princes ou au Vélodrome. Là, ce qu'on redoute vraiment dans les tribunes, c'est les chants insultants, les chants homophobes des supporters parisiens à l'encontre, évidemment, des Marseillais. Et d'un joueur en particulier, on l'a tous en tête, Adrien Rabiot, qui a été formé au Paris Saint-Germain, qui a longtemps joué là-bas. Puis, il est parti à la Juventus, il a fait sa carrière, le vice-champion du monde avec la France. Mais maintenant, il porte les couleurs de l'Olympique de Marseille. Ça, c'est un mouvement qui ne plaît pas beaucoup aux supporters. Donc, on s'attend inévitablement, à, on va dire, à de l'hostilité hein, de la part des supporters parisiens. Qu'est-ce qui pourrait se passer, Hugo? Il pourrait y avoir des remontrances de la part de l'arbitre, une suspension de quelques minutes du match, voire une interruption complète. En tout cas, on va rester très très prudent sur la tenue de ce match. Ça peut être très très compliqué, mais on espère que le sportif restera prioritaire et qu'on verra un beau match ce soir du côté du Parc des Princes.
On suivra ça avec vous en fil rouge en direct sur RFI. Merci Sofiane Amazian.
Il y a la suspicion d'une blessure assez grave au genou. Antoine souffre, il faut dire les choses comme elles sont.
Son genou droit n'a pas tenu face aux Irlandais et sa sortie en plein match contre le 15 du trèfle faisait craindre le pire. Boîte en bas et soutenu par le staff médical, Dupont avait péniblement quitté le terrain en larmes et le verdict est tombé ce dimanche. Il souffre d'une rupture des ligaments croisés. Le numéro 9 du Stade Toulousain et des Bleus l'a confirmé sur son compte Instagram, précisant que le cœur était encore plus douloureux que le genou au moment d'abandonner ses coéquipiers pour la suite du tournoi Destination. Rendez-vous dans quelques mois, a-t-il ajouté.
C'est Antoine Dupont lui-même qui l'a donné sur ses réseaux sociaux. Le cœur est encore plus douloureux que le genou au moment de devoir abandonner les copains avant la dernière marche. Je suis fier de ce que nous avons accompli hier et de toutes mes forces avec vous. Vous allez le faire.
C'est un coup dur pour la star française qui, à 28 ans, semblait dans la forme de sa vie. Mais comme en 2018, encore face à l'Irlande, c'est son genou droit qui a été touché et sa convalescence sera longue. Dupont, si essentiel pour le jeu du 15 de France et de son club, va donc manquer toute la fin de saison et le début de la prochaine. On ne devrait pas revoir le capitaine avec le maillot bleu avant début 2026 et le prochain tournoi Destination.
Ce que je peux vous dire, c'est évidemment qu'on était tous tristes par Antoine.
Voilà, c'est un élément clé de notre équipe. On a une petite pensée pour Antoine, donc voilà, c'est une grosse victoire, mais voilà, on est un peu triste pour lui.
Antoine Dupont blessé face à l'Irlande la semaine passée. C'est toute la France du rugby qui pleure malgré la victoire à l'occasion du dénouement du tournoi des Six Nations hier. Un épisode, hein, cette blessure qui rappelle un peu ce qu'on avait vécu en France contre la Namibie, me semble-t-il, en pleine Coupe du Monde à la maison en 2023. Déjà une blessure d'Antoine Dupont et toute une nation qui attendait le retour du Messi. Grégory Letor, vous êtes l'un des invités de Mondial Sport. Vous avez écrit Antoine Dupont hors norme aux éditions Marabout. Il est attendu comme le Messi, Antoine Dupont, parce que c'est le Messi, avec un M majuscule, du rugby. Il est l'équivalent de Messi dans le football, de Cristiano, de LeBron James dans le basket. C'est lui le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle.
Bah, si c'est pas lui, en tout cas, il en est vraiment pas loin. C'est un joueur qui fait gagner ses équipes, que ce soit le Stade Toulousain, que ce soit l'équipe de France, que ce soit France 7, qu'on le rappelle, cette médaille d'or aux Jeux Olympiques.
Oui, c'est-à-dire qu'il a, excusez-moi, je vous interromps, mais il a pas changé de sport. Mais en tout cas, il est passé du rugby à 15 au rugby à 7 pour porter l'équipe de France, pour aider l'équipe de France à l'occasion des Jeux Olympiques. Et là, le pari a été réussi. C'est rien que ça, c'est énorme, ça en dit long.
Ah bah c'est monumental, c'est l'équipe de France qui attendait une victoire sur le circuit mondial depuis 20 ans, une victoire en 2005 à Paris. Dès le deuxième tournoi d'Antoine Dupont, l'équipe de France était sacrée sur le circuit mondial, ils l'ont remporté à la fin de l'année. Il y a eu cette médaille d'or à Paris en dominant les Fidjiens qui étaient jusque-là invaincus dans l'histoire olympique, double médaillé d'or. Donc c'est un joueur qui est une icône, qui est on l'a dit un phare qui montre la voie et puis qui donne beaucoup de plaisir, qui fait l'unanimité autour de lui. Donc forcément, de le voir comme ça s'arrêter en cours de route, bah c'est une tristesse. On aime tous le sport, tout ce jeu, et quand on le voit, voilà, quand on sait qu'on va être privé de ces éclairs, de ces fulgurances jusque peut-être au mois de novembre pour la tournée d'automne, c'est forcément triste. Oui, après il est encore jeune. C'est un joueur qui a la particularité à chaque fois qu'il a été blessé d'être revenu plus fort. Il avait déjà été blessé au genou, au genou droit, il s'en est servi pour travailler son pied gauche. Il avait été blessé au dos après le mondial au Japon. Il s'en est servi pour revenir encore plus fort. Sa première blessure, il avait développé beaucoup une préparation mentale qui lui sert visiblement toujours. Donc moi je suis pas inquiet sur sa capacité à revenir. On l'a vu avec son copain Anthony Gélonge qui a eu lui aussi deux grosses blessures au genou et qui hier a encore été, je pense que Bakary validera, qui a encore été monumental hier, Anthony Gélonge.
Bakary, est-ce que vous validez ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer, ouais. Je me mets à la place des profanes, et j'en suis un petit peu, qu'est-ce qui fait qu'Antoine Dupont, si vous deviez expliquer, pourquoi c'est le meilleur ou l'un des meilleurs joueurs du monde ? C'est quoi ses qualités ?
Le truc, c'est qu'il révolutionne un poste qui est très connoté au rugby. Il y a plusieurs postes, mais le demi de mêlée, c'est celui qui touche le plus de ballons dans un match, et souvent, c'est celui qui joue donc dans la charnière avec le numéro 10. Et si on résume et si on simplifie au maximum, on dit que son rôle, c'est d'éjecter le ballon du ruck pour le numéro 10. À la différence qu'Antoine Dupont, il sait éjecter le ballon, mais il sait aussi faire tout plein d'autres choses. Et il fait des choses qu'on aurait reprochées à n'importe quel autre demi de mêlée. C'est-à-dire qu'Antoine Dupont, autour des rucks, porte souvent le ballon. Et on reproche souvent ça au demi de mêlée en disant « faut pas que tu portes le ballon, faut que tu éjectes directement, faut que tu fasses ta passe ». Antoine Dupont a cette capacité de porter ce ballon et de pouvoir mettre ses adversaires en échec. C'est-à-dire que pour l'avoir joué une fois, il est impossible à plaquer presque. Il est tellement petit,
il est insaisissable.
Alors
on peut le comparer
sur
un peu
les
à Messi là-dessus.
Ouais. Tant sur les appuis, ouais. Mais sur la force physique. C'est un tronc d'arbre. C'est un tronc d'arbre qui a de la vivacité, qui a de la force, qui est fin techniquement, qui a un jeu au pied. Il le rappelait tout à l'heure, il a les deux pieds, il est ambidextre. Qu'est-ce que vous voulez faire ? C'est comme on a l'habitude de dire pour les sports US, c'est un cheat code, c'est-à-dire qu'il est injouable. Voilà.
Si vous l'avez dans votre équipe, vous êtes sûr
ouais.
Vous avez un avantage énorme. Serge Plamédi, vous êtes une figure congolaise du rugby. Antoine Dupont, c'est quelqu'un que vous admirez, que vous voulez regarder à chaque fois qu'il y a du rugby à la télé, que vous étudiez, que vous enviez quelque part ?
Exactement, exactement. C'est les joueurs des classes mondiales comme ça, tout le monde voudrait bien avoir dans son équipe. Hein. C'est mieux de l'avoir dans ton équipe que d'être dans le camp adverse. Parce que, comme vient de dire Baki, c'est tellement important de constater tout ce qu'il a comme capacité de faire les choses. Moi, quand j'étais encore sur le terrain avec le Stade Nantais et d'autres équipes, je crois que c'est exactement ce qu'on interdisait au demi de Mbélé de faire. Lui, il fait le contraire. Et il fait, en plus, il fait le contraire de tout ce qu'on interdit au demi de Mbélé, mais il le fait alors bien encore. Donc, on n'a plus envie de lui d'interdire cela. Parce qu'il est costaud avec sa petite taille. Il peut entrer là où personne ne peut entrer. Il peut vous surprendre là où vous n'attendez pas. Donc ça, c'est un joueur de classe mondiale. J'étais encore devant la télévision quand je vis sa blessure, quand il est sorti. J'étais presque avec lui, j'ai compatissé avec lui. Et hier, quand vous regardez hier, même quand on lui a donné la coupe pour soulever, c'est un gars qui n'aime pas profiter seulement de la victoire, mais qui aime participer à la victoire. C'est la raison même pour laquelle qu'il s'était même décalé pour aller au rugby à 7, pour faire quelque chose avec l'équipe de 7 avant de revenir. Donc quand on lui a donné la coupe hier, on sentait que Dupont était là, mais il n'était pas là. Parce que, en quelque sorte, il n'a pas participé à cette fête-là. Mais comme nous sommes à la rugby, c'est un sport collectif, donc il a quand même profité de cette occasion-là. Mais c'est un joueur exceptionnel.
Donc c'est un joueur exceptionnel, des qualités, on l'a dit, physiques, athlétiques, une créativité aussi, un sens du collectif. Il y a aussi ces aspects-là chez Antoine Dupont, Grégory Le Thor.
Oui, c'est ça. Comme l'a dit Bakary, c'est un joueur vraiment, c'est très important ce qu'il a dit, c'est un joueur qui a révolutionné le poste de demi de mêlée par sa capacité à prendre des initiatives, par sa capacité à jouer au pied très loin. Donc ça amène différentes formes de jeu et ça rend très très complexe l'équation de comment défendre face à Antoine Dupont, comment bâtir un plan Antoine Dupont, puisqu'il est capable d'avoir avec une palette très très large, d'aller chercher des failles partout où elles puissent se trouver. Et puis voilà, si on parle de sa polyvalence, on peut aussi rappeler sa dernière finale de Coupe d'Europe, où il a été exceptionnel au grattage du ballon sur des rucks. Là, c'est le cœur de métier d'un troisième ligne. C'est un joueur qui est capable de jouer numéro 10. Il a vraiment tout pour lui.
Eh bien écoutez, ce sera le mot de la fin pour parler d'Antoine Dupont. Il a tout pour lui. C'est dans Mondial Sport, c'est sur RFI. Et on parle rugby, on parle tournoi destination, plutôt des tournois destination. Bonjour Solène Ravenel.
Bonjour, bonjour à tous.
Un tournoi peut en cacher un autre après les Bleus. Les Bleus ES à la fin. Les Françaises débuteront le Six Nations au féminin face à l'Irlande samedi prochain. Les exploits des rugby women ne sont pas encore aussi populaires que ceux des rugby men. Mais des jeunes joueuses de rugby françaises s'inspirent de plus en plus de leur aînée. Solène, c'est ce que vous avez constaté en partant à la rencontre des joueuses du Rugby Club Paris dans le 15e arrondissement.
Et malgré des audiences dans les stades et à la télé qui explosent ces dernières années pour le rugby féminin, avec par exemple 66 000 personnes au Stade de France lors des Jeux Olympiques pour du rugby à 7 féminin, pas toujours très facile de trouver des supportrices du 15 de France. Alors je suis allée voir de jeunes joueuses et même là, après avoir attendu dans le froid la fin de l'entraînement, certaines avouent qu'elles ne sont pas vraiment à regarder du rugby.
Je ne regarde pas beaucoup le rugby, à part parfois au tournoi destination, mais c'est que le tournoi destination masculin. Et niveau féminin, je regarde pas du tout. Après, j'ai regardé les Jeux Olympiques avec le rugby à 7, mais ça s'arrête là. Ouais.
Après, il y a moins de visibilité, donc on en parle moins et ça me pousse moins à regarder le rugby féminin, c'est pour ça surtout.
Un manque de visibilité du rugby féminin pour Agathe, qui ne refroidit pas certaines fans, comme Avril, 17 ans, qui a encouragé ses camarades tout l'entraînement.
Montez ! Allez, Laura, allez, Laura !
Waouh,
ça va le faire.
Est-ce que tu regardes le 15 de France féminin ?
Oui, beaucoup moins que le masculin, mais ça m'arrive de regarder le féminin. Je crois que j'ai même une joueuse préférée qui, pour le coup, m'avait salué une fois que j'avais vu. J'ai une fadée, j'étais super contente. Je connais plus le nom exactement.
Gabrielle Vernier ?
Oui.
Et Gabrielle Vernier, élue meilleure joueuse du tournoi Destination en 2023, n'est pas la seule française à inspirer la nouvelle génération.
Les joueuses internationales, par exemple les sœurs Ménager, qui sont depuis longtemps en équipe de France.
J'aime beaucoup Marine Ménager, parce qu'elle vraiment, elle est balèze, elle est costaud, et je suis sur Instagram, et vraiment comment elle s'entraîne, c'est impressionnant. Elle a vraiment beaucoup de muscles. Sinon, je crois Pauline Bourdon, c'est une neuf. Et vu que moi, j'ai commencé neuf, bah, c'est aussi quelqu'un que j'admire énormément parce qu'elle fait du beau travail.
Il y en a une, Pauline Bourdon, voilà, la neuf de Toulouse que j'aime bien. Il y a une Agathe Socha, je crois, là, une talonneuse que j'aime bien aussi.
Alors, on rectifie un peu, il s'agit bien d'Agathe Socha, la talonneuse de Bordeaux, double championne de France en titre et joueuse majeure de l'équipe de France, sélection qu'elle retrouvera dès la semaine prochaine, comme Chloé, Roxana, Colette ou Avril qui attendent avec impatience le retour du 6 nations féminin.
Je crois qu'il n'a pas encore commencé, si je ne me trompe pas. Il commence dans une ou deux semaines, je ne sais plus. Mais ouais, je compte regarder. Ouais.
Il y a un match que tu attends plus que les autres.
Angleterre-France chez les filles, c'est impressionnant à voir. Elles sont balèzes aussi, du coup c'est un bon match.
Et tu penses que cette année, on va enfin réussir à battre les Anglaises?
Je pense. En tout cas, j'espère beaucoup.
Et le crunch, c'est un match toujours très attendu, quelle que soit l'équipe de France, mais encore plus, mais en particulier chez les femmes, alors que les Bleues n'ont pas battu les Anglaises depuis 2018. Des Anglaises qu'elles affronteront cette année à Londres, en dernière journée, pour disputer peut-être la finale du tournoi.
Merci Solène Ravenel, Bakary Maïté, vous êtes l'entraîneur des féminines du Stade français, on l'a dit, et ce RCP 15, donc le Racing Club Paris, dans le 15e arrondissement de la capitale française où Solène est allée faire son reportage, vous en disiez beaucoup de bien en antenne
oui,
tout à l'heure.
Oui, je disais que c'était un club qui œuvre beaucoup, notamment pour le rugby féminin, c'est un club amateur qui a réussi la prouesse d'avoir plus de 80 licenciés chez les filles en seniors, plus l'école de rugby, donc chapeau à eux, bravo pour ce qu'ils font et on espère effectivement que le RCP 15 abreuvera les autres clubs.
Et concernant l'équipe de France féminine ou le rugby féminin, pardon, au niveau international, vous pensez qu'il y a quelque chose qui est en train de vraiment émerger, de se construire? Ça va prendre du temps.
Ouais, mais... ça prend du temps, mais ça fait plusieurs années déjà qu'il y a une espèce de lame de fond qui arrive là. Moi, j'ai apprécié l'initiative de déprogrammer le 15 de France féminin. Parce qu'avant, elle jouait le tournoi de destination sur les mêmes week-ends que les garçons et que les U20. Aujourd'hui, il reste que les U20. Les U20 jouent le vendredi en général et le 15 de France joue le samedi.
Plus de visibilité.
Voilà. Et aujourd'hui, leur tournoi commencera le 22 mars, je crois, en Irlande.
Exactement.
Et du coup, une visibilité accrue pour elles. Elles sont sur les chaînes hertziennes, si permettez-moi l'expression.
Oui, oui. Elles vont pouvoir être vues par un grand public.
Et il y a un public qui adhère. Et puis, moi, je sais qu'aussi, elles jouent dans des stades combles et ça, c'est top.
Serge Plamédi, il nous reste une minute vingt. Je sais que vous aviez une annonce concernant le rugby africain à faire. Vous vouliez annoncer des événements à venir.
C'est un événement où c'est là, il a fallu que ce soit en activité sur RFI. C'est très important. Je crois que quelques jours, j'avais contacté Bakary. C'est un projet où on a mis en place depuis 2020 et nous voulons créer un tournoi de la diaspora africaine de rugby. C'est-à-dire la diaspora camerounaise, congolaise, ivoirienne.
En France,
ça va se passer ici en région parisienne. Et si tout va bien, ça va se passer à Sérène. Ça sera le dimanche 2025.
Et la Côte d'Ivoire, Bakary Maïté, voudrait prendre part à cet événement?
Bien évidemment.
Vous en seriez?
Oui,
d'une manière ou d'une autre.
On pourra répondre à l'invitation de Serge avec grand plaisir.
Bon, Grégory Le Thor, vous êtes dans le sud de la France, mais il faudra peut-être s'intéresser à ça. Alors, ce tournoi de rugby de la diaspora, je vous remercie. Je rappelle votre livre, Antoine Dupont, hors norme aux éditions Marabout. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous de Pau.
Et merci pour l'invitation.
Merci de l'avoir honoré. Merci Bakary Maïté. Merci Serge Plamédi. Merci Hélène Avril. Merci à Sétou Samaké, évidemment, qui œuvre dans la mêlée de Mondial Sport. On se retrouve la semaine prochaine. Demain, Radio Foot. Et puis, en attendant, une excellente soirée à l'écoute de RFI avec un nouveau journal international.